Coucou, salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de Téléloisirs.
Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles.
Ils sont tout aussi fascinants que glaçants et sont devenus une indispensable source d'inspiration pour la télévision. Raison pour laquelle le petit écran adapte à tour de bras, en téléfilm ou en série télé, les faits divers qui ont le plus secoué et le plus imprégné la mémoire collective française. Dans le désordre, on a eu récemment droit aux adaptations de l'affaire Fourniret avec la traque sur TF1, à l'affaire Patrick Dils avec « Je voulais juste rentrer chez moi » sur France 2, un homme ordinaire autour de Xavier Dupont de Ligonnès sur M6, et bientôt TF1 nous gratifiera aussi de sa version de l'affaire Grégory dans une affaire française. Les États-Unis ne sont pas en reste non plus, puisqu'on a eu droit à un retour sur l'affaire O.J. Simpson et sur le meurtre de Versace dans American Crime Story. Et bientôt, la série évoquera aussi l'affaire Monica Lewinsky. Alors, faut-il continuer à adapter les faits divers en série télé? On va parler de cette tendance avec mes trois expertes du jour, Katia, Anne et Stéphanie.
Salut Sébastien.
Salut.
Salut Sébastien.
Mais est-ce que déjà je suis dans le vrai? Est-ce qu'on peut seulement parler de tendance ou est-ce que l'adaptation des faits divers fait partie, en tout cas depuis longtemps, de l'ADN des fictions télé?
Pour moi, la tendance, elle a toujours un peu existé, mais elle s'est accrue en France avec les fictions télé et les chaînes hertziennes qui se sont mis à adapter du fait divers, ce qui était moins courant avant. Avec le succès des documentaires sur Netflix, en fait, ils ont vu qu'il y avait quand même une appétence, pas forcément d'un public ciblé, et du coup ils se sont dit que voilà, ils pouvaient proposer du fait divers à un public populaire qui n'est pas forcément très très féru de ça. Donc il y a eu cette année quand même vachement de fiction sur le thème.
Cette année oui, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps au cinéma d'abord. On se souvient peut-être de Noces Rouges en 73 de Claude Chabrol, mais même à la télé sur le petit écran depuis 2005 en fait, il y a eu quand même pas mal de séries ou pas mal d'unitaires consacrés à des faits divers. Il y a eu Mesrine, il y a eu Patrice Allègre, enfin il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que cette année, je suis d'accord avec Steph, enfin en tout cas ces 2-3 dernières années, il y en a de plus en plus quoi. Il y a toutes celles que tu as citées Sébastien, puis il y a eu aussi Laetitia qui a été diffusée il y a pas très très longtemps sur France 2. Donc oui, c'est une tendance lourde de la télé en ce moment, l'adaptation de faits divers. Mais en France, c'est arrivé peut-être un peu plus tard que dans d'autres pays, pour des questions peut-être juridiques, d'éthique et de morale, en tout cas celles que nous, on se met, français, enfin ce qu'on s'impose.
On va en parler, et justement, moi j'ai une petite question autour de ces différentes adaptations. Dans un précédent Climax, on avait déjà évoqué le fait que de nombreuses séries télé ou téléfilms étaient adaptés de romans préexistants ou d'histoires préexistantes. Est-ce que là, on n'est pas aussi typiquement peut-être dans un manque d'inspiration, ou alors est-ce que les scénaristes se disent tiens, je vais capitaliser sur une histoire qui fascine déjà?
Pour moi, il y a les deux. Je pense que ça participe de cette tendance du manque d'imagination, ça c'est sûr. Après, le truc c'est que la réalité elle est plus forte que la fiction aussi, donc ils ont raison de s'en inspirer quelque part. Je pense qu'il y a les deux en fait.
Oui, et puis il y a aussi cette, enfin pour celles qu'on a citées, il y a eu aussi un emballement médiatique clair au moment de. Parce que pour certaines, ce sont des affaires qui sont relativement récentes, d'autres qui sont un peu plus vieilles, mais néanmoins qu'on a tous, en tout cas je parle d'un temps que les plus de 30 ans reconnaîtront, de choses qu'on a pu voir dans les journaux télé, dans des documentaires. Donc c'est des choses ce sont des affaires qui ont marqué les esprits vraiment, et que donc clairement pour un téléspectateur, ça évoque quelque chose, et donc sans doute qu'il y a un effet de curiosité qui joue, sans compter que malgré tout, l'effet divers, c'est un petit peu l'image de la société, et donc ça révèle quelque chose de notre société. Et donc de la même manière que le grand public a une réelle appétence pour les faits divers, il a une réelle appétence pour les fictions qui en parlent. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Oui, et puis en plus, c'est un scénariste qui disait la dernière fois que, en fait, par exemple, le tueur en série, c'est un peu la tarte à la crème du scénariste. C'est-à-dire que tu n'as plus d'idée. Bon, hop, tu mets un serial killer et puis ça te fait un rebondissement. Et ce sont souvent des histoires qui sont assez incroyables et qui touchent un peu tous les domaines. Ça peut être soit ton voisin à côté de chez toi qui est un meurtrier, comme une histoire incroyable avec un mec comme dans Le Serpent qui a une vie complètement romanesque. Donc il y a tout, il y a du drame, il y a de l'horreur, il y a de la peur, il y a à la fois de la proximité, à la fois quelque chose de très romanesque. Donc pour un scénariste, c'est parfait, quoi, comme sujet.
Je ne sais pas si parfait le terme, mais en tout cas, c'est un sujet qui est riche. Oui, tu peux en tirer pas mal de ficelles scénaristiques. Mais comme le disait Anne tout à l'heure, souvent la réalité, en tout cas parfois la réalité dépasse la fiction. Et alors, dans les faits divers, Enfin, je dirais par exemple l'affaire du pont de Ligonnès qui est revenue en plus sur le devant de l'actu avec cette fameuse une du Parisien, comme quoi il l'aurait retrouvée, qui s'était avérée fausse. Et puis ce grand dossier de Society, très bien documenté. Et puis ces deux fictions coup sur coup sur M6 et sur TF1.
Quel pied si on pouvait tous mourir demain ?
C'est vrai que cette affaire-là, par exemple, elle est digne d'un scénario, d'un scénario de fiction totale pour le coup. Enfin,
bah,
c'est
oui,
difficile
c'est...
d'imaginer plus
c'est idéal,
fictionnel
quoi.
Que cette affaire-là. Ouais.
Et d'ailleurs, ils vont faire, pardon, excuse-moi, ils vont l'adapter en série, l'enquête de Society.
Non, mais honnêtement, l'affaire de Ligonnès, typiquement, on n'y croit pas en fait presque dans une fiction, c'est totalement inventé. Il y a tellement de rebondissements, c'est tellement incroyable. Alors que là, on sait que c'est vrai, donc je pense que l'appétence est encore plus grande.
Moi, j'étais surpris par les résultats d'audience, justement, d'Un homme ordinaire l'été dernier. Elle était diffusée, je crois, à la mini-série quelques semaines après la publication de l'enquête Society. Et de mémoire, ça n'avait pas forcément remué les foules.
Non, mais c'était pas très bon.
Ouais, c'était même...
voilà, la fiction n'était pas très bonne, alors...
C'était même mauvais, hein.
Voilà, bon, on peut peut-être aller jusque-là. Et puis surtout, M6 n'est peut-être pas la chaîne non plus sur laquelle on s'attend à voir ce genre de fiction. Enfin, il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas, à mon avis, sur cette série-là. Et c'est sans doute pour ça que ça n'a pas déplacé les foules. Et puis par ailleurs, ils ont changé le nom des personnages, on y reviendra aussi après. Enfin, je veux dire, le lien entre l'affaire de Ligonnès et Un homme ordinaire n'était pas aussi évident que ça. D'un point de vue, je déteste ce terme-là, mais en tout cas, s'il y avait des bandes annonces ou quoi, on ne voyait pas nécessairement que c'était cette affaire-là, en fait, au départ.
Ouais, et puis en plus, ils ont vraiment pris le parti pris de faire un thriller et ils ont fait des gros. Enfin, c'était un peu librement inspiré, quoi. C'était quand même pas très rigoureux, donc c'était plus pour une série comme une autre. Et je pense que juste après l'enquête, justement, c'était peut-être pas le bon moment pour la sortir, finalement.
Oui, mais enfin, c'est une fiction à la fois, c'est pas un documentaire. Hein. Donc, on en arrive au cœur du sujet, mais ils sont pas... Enfin, je veux dire, autrement, tu regardes un documentaire si tu veux voir quelque chose de très véridique.
Je pense que les gens se sont sentis un peu perdus après avoir lu l'enquête et tout ça, que ce soit qu'il y ait des personnages en plus, qu'il y ait des choses en plus, enfin voilà.
Ou après, je suis pas sûre que tout le monde ait lu Society, tu vois, que tous les gens qui ont lu...
Et là où je te rejoins, Katia, c'est que le problème, c'est que c'est une fois que t'es dedans que tu t'aperçois des ressemblances, c'est pas avant. Avant, tu peux pas... Même si la presse en a parlé, même si peut-être la bande-annonce, je m'en souviens pas, faisait un peu état, mais... Finalement, c'est une fois que tu la regardes que tu sais que c'est ça.
Si, quand même, ils ont quand même communiqué sur le fait que c'était l'affaire de Ligonnès.
Enfin, attention, parce que moi, je me rappelle qu'on ne devait pas... Enfin, qu'ils ne devaient pas, dans leur bouche de promotion, en tout cas, enfin, dans leur discours promotionnel, justement prononcer... Enfin, dire que c'était l'affaire du pont de Ligonnès, parce que, pour des problèmes juridiques, pour des problèmes de respect envers la famille et tout ça. Non, ils devaient... Alors, évidemment, c'était sous-entendu, ils finissaient par le reconnaître, évidemment, mais, en tout cas, eux ne l'utilisaient pas comme tel, comme argument de vente. Justement, pour des problèmes dont tu as parlé au début, Sébastien, de respect des familles, d'affaires non résolues, de tout ça. Quoi.
De respect de la présomption d'innocence aussi.
D'ailleurs, ils avaient changé. Ça se passait pas à Nantes, mais à Lyon. Enfin, il y a un autre personnage, comme tu disais, Steph, un hacker, mais celui-là, il avait un peu existé. Mais oui. Le personnage joué par Émilie Duquesne, par exemple, n'existait pas. Ah si, il existait, mais
existait, mais ça a été changé un petit peu.
Oui, ça a été changé, c'est ça.
En tout cas, si vous voulez vous faire encore une opinion sur Un homme ordinaire, la série, je crois, est toujours dispo sur Salto. Je suis allé vérifier. On parlait de fiction avant, mais est-ce que justement, ce type d'œuvre, la limite entre la fiction et la réalité est parfois peut-être assez ténue pour les téléspectateurs. Est-ce que c'est un risque ?
Pour moi, c'est clairement un risque, parce que en plus, il y a l'impact de l'image. L'image reste, en fait, plus que ce qu'on aurait pu lire à droite, à gauche. Là, je pense que dans l'esprit de pas mal de gens, le risque, c'est ce qu'ils ont romancé, peut donner l'impression pour les gens d'avoir que c'est la réalité. Je ne suis pas sûre d'être très claire, mais...
Mais est-ce que c'est un risque ? Ça dépend. Définis le terme risque, en fait. Les gens peuvent croire effectivement que tout ce qui est montré dans la fiction est vrai, puisque c'est indiqué que c'est tiré d'une histoire vraie. Mais à la fois, je sais ce que tu vas dire, ma Steph, Fusette, je te connais, tu vas dire que c'est une fiction et que les gens savent que quand même c'est une fiction et que donc ils savent que tout n'est pas vrai. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Exactement. Oui, mais moi, je comprends vraiment pas ce débat qui a lieu maintenant sur des séries qui essaient d'être réalistes. C'est-à-dire que ça reste une série, ça reste une fiction, on est dans le domaine de la fiction, donc... Après, si on a envie de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, on se renseigne après. Mais on sait que de toute façon, on regarde une fiction qui a été coupée, montée, qui a été réécrite, scénarisée, et c'est le but. Même si elle est la plus réaliste possible, t'as quand même un réalisateur qui a sa vision, t'as quand même des scénaristes qui ont écrit. Enfin, c'est pas la vérité. Donc, y a pas à se dire, c'est vu dans le film, donc tout est vrai, ou à reprocher que quelque chose soit pas vrai. Moi, c'est un truc ça que je comprends pas. C'est la télé, c'est du faux. Tout simplement, c'est comme si on se disait que la télé-réalité...
Pas que du faux, puisque toi-même, tout à l'heure, tu as reproché à Un homme ordinaire de ne pas être assez rigoureux et assez proche des faits. Tu vois que la frontière n'est pas si évidente que ça. Après, ce que disent souvent les réalisateurs et les scénaristes de ce genre de fiction, c'est qu'ils donnent à voir un point de vue qui souvent n'est pas... qu'on ne peut pas voir via les documentaires ou via les interviews. C'est-à-dire, ils se mettent souvent dans la tête du tueur ou de la personne qui a commis les faits. Et ça, c'est une interprétation très... personnel au réalisateur, au scénariste, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est un truc que seulement la fiction peut donner à voir, et pas les documentaires, et pas les, surtout sur de l'affaire où les protagonistes ne sont plus là, ou sont en prison, ou on n'y a pas accès, quoi.
Si, tu peux le faire avec un documentaire aussi, hein. Après, tu fais ce que tu veux dans la forme. Si tu veux, je me dis que c'est, à partir du moment où tu sais ce que tu regardes, et si tu regardes une série, tu regardes une série. Si tu regardes un film, tu regardes un film. Si tu regardes un documentaire, tu regardes un documentaire. C'est aussi simple que ça pour moi.
Je rejoins Katia, c'est que quand tu vois un truc inspiré d'eux, tu te dis « Ah bah donc c'est la réalité ». Après, je pense que la plupart ne font pas l'effort de se renseigner, de s'informer dessus.
Mais ils prennent les gens sont feignants. Je tends une perche énorme à Stéphanie Fuseau. Vas-y,
ça m'énerve parce que si tu vas voir...
Tu as vu un cheval, tu es monté dessus, vas-y, cours vers ta destinée.
Si tu vas voir un film sur Johnny Cash... Bon ben, tu te doutes que tout ce qui est dans le film n'est pas forcément vrai. C'est pas forcément la vraie vie de Johnny Cash. Si ça t'intéresse vraiment de savoir qui il est, c'est un film. Évidemment que tu vas changer des choses pour que ce soit attractif, pour attirer des gens. Voilà, si on te raconte basiquement la vie de quelqu'un, tout ne va pas être intéressant. C'est comme un roman qui est adapté. Tu vas pas garder tout le roman.
Au-delà de la représentation de la vérité ou non, est-ce que le fait de remettre justement une affaire qui n'est pas résolue sur le devant de la scène, c'est une bonne chose? Est-ce que ça peut avoir des implications par la suite?
Les implications, elles sont surtout pour la famille, hein, de ceux qui restent, en fait. Et on l'a vu, mais Steph vous en parlera mieux que moi, Stéphanie, sur la dernière en date. Mais quand l'affaire n'est pas résolue et que les intervenants qui ont eu les victimes, hein, d'ailleurs, ou la famille du tueur ou de la tueuse sont encore en vie, ça pose des problèmes, clairement, mais des problèmes, sinon légaux, du moins... Je sais pas quel terme employer, mais émotionnel, quoi. C'est eux qui doivent se reconfronter à des séries d'événements. C'est un peu compliqué. Et quand ce sont des affaires en plus non résolues, il y a le problème légal qui se greffe là-dessus. Donc c'est pas si simple. C'est sans doute la raison pour laquelle aussi, pendant longtemps, on a été un peu frileux, nous en France, de traiter des faits divers contemporains, entre guillemets, quoi.
Ouais, je pense que nous on a peur et on se pose des questions par rapport aux familles des victimes et si c'est respectueux ou pas. Après, moi la question que je me pose dans ces cas-là, c'est je pense que c'est plutôt dans le traitement qu'il faut être respectueux. C'est-à-dire que on va pas faire un slasher movie sur des victimes par exemple sur la traque. Quand le projet du film a été dévoilé par TF1, ça a fait un tollé. Les familles des victimes se sont énervées, le fils du couple Fourniret s'est énervé, il voulait pas que ce film ait lieu.
Vous savez où il est votre mari? On suspecte d'avoir enlevé une jeune fille.
Quoi? Je comprends cette colère, mais en même temps je trouve ça important quand un sujet, finalement, on en a discuté dans la presse, on en a discuté à la télévision, ça fait un peu partie de notre histoire aussi et de l'histoire de la société. Je trouve ça important aussi qu'on puisse en parler de toutes les façons. Et je vois pas ce qu'il y a d'irrespectueux d'en parler. Après, si dans le traitement, c'est irrespectueux pour les familles, là, c'est autre chose. Mais juste le fait de faire une fiction sur une affaire non résolue, je vois pas ce qu'il y a d'irrespectueux encore là-dedans.
Mais c'est pas tant le problème du respect que le problème... Alors, si, ça peut l'être, hein, le respect, mais ça, c'est aussi une façon de remettre sous le feu des projecteurs, des gens qui, pour le coup, aimeraient peut-être se faire oublier, qui ont vécu avec ça toute leur vie et qui se revoient à nouveau stigmatisés ou voient leurs proches l'être ou se, ou les parents de victimes qui doivent à nouveau se, voilà, se confronter à la douleur d'avoir perdu leur enfant. C'est plus ça que le, enfin, il y a la question du respect, bien sûr, mais il y a aussi juste la question de, on recommence à en parler, donc je recommence moi, enfin je suis obligée de à nouveau me confronter à cette douleur-là, quoi.
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, souvent, les familles des victimes le critiquent avant, en fait. Et on les entend peu, en tout cas après, parce que le traitement, en général, a été fait avec aussi des protections juridiques. Souvent, j'ai l'impression que c'est plutôt un procès en amont qui est fait à la fiction plutôt qu'après. Après, je pense qu'il y a aussi des cas où ils ont été devant la justice pour porter plainte et tout. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que c'est plutôt avant. Là, le fils fournirait, on l'a entendu avant. J'ai pas l'impression qu'il ait parlé depuis. Alors, ou on lui a pas donné la parole, mais.
Non, mais de toute façon,
une fois que c'est diffusé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse
? Non, il peut dire justement que à tel point, sont faux. Avant, il critique quelque chose qu'il avait dit ne pas avoir vu, quand même.
Mais il ne veut pas le voir, d'ailleurs. Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas le voir. Lui, il n'est pas d'accord sur le principe.
On entend toutes les problématiques qu'une telle adaptation suscite, mais est-ce que, parfois, pour se donner bonne conscience, les scénaristes et producteurs arrivent à trouver des artifices dans leur narration pour justement faire rendre ça un petit peu plus respectueux ou éthique, si c'est le terme que vous préférez?
Bonne conscience, je ne sais pas s'il y a une question de conscience là-dedans, mais en tout cas, parfois, je sais même pas si c'est une question de protection, mais il change le nom, il change le lieu, il rajoute des éléments, mais comme tu disais, Steph, des personnages, tout ça, mais ça, c'est juste pour faire avancer l'action et juste pour que le scénario, en fait, tienne la route. Pour se donner bonne conscience, je sais pas ce qu'ils font. Moi, je sais que j'avais parlé au producteur, donc, d'un homme ordinaire. Ils avaient beaucoup parlé à la famille, ils s'étaient beaucoup documentés, aux gendarmes. Enfin, je veux dire, ça ressemble à de l'enquête documentaire. Et ils se justifiaient d'avoir changé le nom du anti-héros et la ville par respect pour les familles. Voilà. Ouais. Mais je sais pas si c'est la question de conscience là-dedans, en fait. Mais plutôt
responsabilisation.
Exactement, et puis aussi de protection judiciaire, hein. Enfin, de se protéger des risques juridiques que des plaintes que peuvent faire valoir les proches, et puis même les accusés, hein, dépend de l'affaire n'est pas jugée.
Il peut y en avoir.
Bien sûr. Il y en a, ouais. Par exemple.
Et même quand l'affaire est jugée, d'ailleurs, pardon, excusez-moi. Oui. Quelqu'un qui est condamné peut porter plainte depuis sa prison.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de plaintes, d'ailleurs, de familles quand il y a des fictions qui sont faites. Et ils sont souvent déboutés parce que, c'est aussi atteinte à la liberté de création. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus empêcher un réalisateur de s'emparer d'un sujet qui n'appartient pas qu'aux victimes. Finalement, il y a plein de protagonistes. Il y a la justice, c'est pas que leur histoire. Donc finalement, et souvent, j'ai remarqué que les fictions de faits divers, elles partaient souvent d'un bouquin, soit fait par une des victimes qui a raconté son histoire, soit fait par un journaliste qui a mené l'enquête à l'époque, soit par un romancier qui a enquêté sur l'affaire, etc. Donc ils disent que c'est adapté finalement du bouquin. Et la traque, c'est ça, par exemple, c'est adapté d'un bouquin, c'est pas adapté directement de l'affaire. Donc
c'est pareil pour Jacqueline Sauvage.
Ce procès est le procès de toutes ces femmes qui n'ont plus les mots pour décrire leur calvaire.
C'est pareil pour Jacqueline Sauvage. Donc, ils ont souvent quand même une base qui fait qu'ils ont un accord avec un romancier. Ils ont acquis les droits. Donc, là-dessus, ils sont bordés. Et pour les petits... j'avais eu une scénariste aussi qui m'avait dit qu'en fait, il faut faire attention surtout aux petits détails pour éviter d'avoir des problèmes juridiques. C'est-à-dire, voilà, on va changer un tout petit truc. Pas forcément les noms. Ça, c'est pas forcément grave parce qu'au final, on connaît l'affaire et les noms, on les connaît. Mais par exemple, voilà, un lieu, ben ça va être le lieu juste à côté où il va y avoir quelque chose dans les preuves retrouvées, il va en manquer une, ou alors il y en a une, ça va être une autre couleur ou un truc différent, et ça, tu vois, rien que ça, ça peut les protéger d'éventuelles attaques.
La question qui se pose du coup, c'est est-ce qu'il faut continuer à s'inspirer d'effets divers sur le petit écran? Juste pour revenir sur un sondage qui a été réalisé par nos confrères de Télé 2 Semaines qui était en kiosque il y a très peu de temps. Il concernait les émissions de faits divers et à la question « Y a-t-il trop d'émissions de faits divers à la télévision ?» 81% des sondés répondaient « Oui » et 19% répondaient « Non ». Alors, est-ce qu'on continue ou pas les faits divers en série sur le petit écran?
À partir du moment où il y a un public pour, de toute façon, il y aura toujours des fictions de fait. Les gens ne veulent vraiment plus en voir, ils gardent pas. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y en aura toujours, et parce que c'est une source d'inspiration finalement énorme, quel que soit. Les faits divers, il y en a tout le temps. Et des faits divers qui marquent l'opinion, il y en aura toujours, malheureusement.
Non, pardon. Bah, en plus, c'est vrai que quand on disait que tout à l'heure, la fiction dépassait la réalité dépassait la fiction, il y a des histoires quand même hors normes et qui sont, en tout cas, qui méritent d'être connues. Et c'est vrai que c'est un biais aussi pour faire connaître des histoires dont on n'aurait jamais eu connaissance sans la fiction, en fait.
Non, parce que moi, pour vous dire la vérité, je suis pas extrêmement cliente des fictions de faits divers, donc je suis même pas tellement cliente des faits divers tout court. Donc évidemment, si tu me poses la question à moi, je te dirais oui, il y en a trop, mais en fait, enfin, il y en a trop pour moi, mais tant mieux qu'il y en ait et que les gens y trouvent leur compte. À titre très personnel, je reconnais aux faits divers cette fonction d'exemplarité, entre guillemets, de ce qui se passe dans notre société, mais je préfère voir un documentaire sur ce sujet-là très précis, ou une émission qui retrace les faits avec des intervenants de l'époque, des policiers, des journalistes, tout ça, qu'une fiction. Mais c'est très personnel.
Aux États-Unis, est-ce qu'on a un même type d'engouement actuellement ?
Plus grand encore.
Ouais. Aux États-Unis, ils se posent moins la question, ils se posent moins de questions éthiques que nous, en fait. C'est-à-dire que pour eux, je pense que c'est naturel de parler d'un fait d'actualité. Et ils vont moins se poser la question qui on va blesser, qui on peut... Est-ce que c'est moralement ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que... Non, mais pour eux, c'est du traitement de l'actualité, en fait. Et souvent, ils réagissent très vite sur des cas qui sont très récents. Par exemple, ils font des émissions, leurs émissions de faits divers, des fois, couvrent des affaires qui sont dans le mois, qui sont arrivées le mois même. Et tout de suite, ils font quelque chose, une émission avec un peu de sensationnel, etc. Ils sont pas du tout dans le truc, mon Dieu, est-ce qu'on va choquer, etc. Donc, on n'a pas du tout la même approche. Je pense qu'ils ont une approche plus, c'est du divertissement, entre guillemets.
Et bravo. Donc le fait divers était du divertissement. Donc,
oui, parce que finalement, il y a des choses très romanesques en fait. Et puis il y a de tout dans les histoires de faits divers. C'est-à-dire que tu peux avoir un côté social, tu peux avoir des tueurs en série, tu peux avoir des trucs un peu insolites. Tout ça, c'est du fait divers finalement. Donc c'est pas forcément quelque chose de glauque. Quelque part, ça nous ramène à ce que nous on est, à notre part à la fois de voyeurisme, à la fois de ce qu'il peut y avoir de plus atroce dans l'être humain, et d'essayer de comprendre aussi les mécanismes de tout ça. C'est d'une richesse incroyable, en fait. On peut en faire de tout, des livres, des documentaires. Moi, je trouve qu'il n'y en aura jamais assez, en fait.
Effectivement, ils sont quand même, pour le coup, très réactifs par rapport à ce qui se passe chez eux, y compris d'ailleurs par rapport aux Français. L'affaire DSK, donc, qui se passe au Novotel, Novotel à New York. Ils en ont fait un épisode de New York Unité Spéciale très rapidement. Ça n'a pas traîné.
Ça s'est passé en mai et ça a été diffusé en septembre aux États-Unis cette année-là.
Donc, c'est dire à quel point ils sont réactifs. Et puis, par ailleurs, effectivement, la série, aidez-moi les filles, c'est O.J. Simpson, c'est
American Crime Story.
Voilà. Donc, cette série-là, elle a passionné les Américains. Elle est très bien faite d'ailleurs, au même niveau que le fait divers lui-même.
Monsieur O.J. Simpson, votre ex-femme a été assassinée.
Avait passionné les Américains, qu'il avait traité d'ailleurs sur le moment comme une vraie série, avec des équipes de télé qui avaient filmé la course-poursuite sur l'autoroute. Enfin, c'était quand même quelque chose de très...
Ça, puis c'est le premier procès vraiment filmé de bout en bout et diffusé en direct aux États-Unis. Et là où ils sont très forts aussi, c'est que non seulement ils font des mini-séries prestigieuses aussi, mais pas seulement, en fait, ils font aussi des téléfilms de l'après-midi qui vont faire sur des faits divers à la con. Ils vont en faire plein, en fait. Il y a beaucoup de fictions comme ça qui sont inspirées de faits divers. Alors là, pour le coup, souvent, ils ont changé pas mal de choses. Ils partent du fait divers et ils brodent. Et d'ailleurs, à la fin, t'as plein de... Ceci est très transformé. C'est pas écrit comme ça, mais ça veut dire ça, quoi. Donc, ils sont très forts. Et les New York Unité Spéciale et compagnie a été très fort tout le temps pour s'inspirer des faits divers, qu'elle a beaucoup transformé à chaque fois aussi.
Oui.
DSK, la fin est pas du tout la même, c'est pas le même. Et on reconnaît plein de protagonistes, plein de situations jusqu'à l'arrestation dans l'avion, des choses comme ça, quoi.
Donc, je rebondis d'ailleurs sur ce que dit Anne. Une des différences entre les États-Unis et la France, c'est que là-bas, les procès sont filmés, en tout cas aujourd'hui.
C'est ce que j'allais dire.
En France, ils ne le sont pas. Ce qui, pour une fiction, enfin, je veux dire, la fiction a cet avantage aussi sur le documentaire que l'on peut montrer un procès lié à un fait divers. Puisque en France, encore une fois, on ne peut pas filmer un procès. Donc, regarder le procès, entre guillemets, regarder ce qui s'est vraiment passé dans la salle d'audience, le seul moyen, c'est la fiction. Je crois que ça va changer. Je me demande s'il n'y a pas une réforme.
Si ça a un peu changé.
Mais pour le moment, en tout cas, la fiction, pour avoir des images qui ne sont pas réelles, mais en tout cas qui sont censées retranscrire ce qui s'est passé, la seule moyen aujourd'hui, c'est la fiction ou le docu-fiction.
Ouais.
Mais le docu-fiction, c'est encore pire.
Il y a de l'Estrade en fait qui a fait pour l'affaire Courgeot qui a pris tous les parce que autant la captation d'image est interdite, la captation du son n'est pas interdite et donc il a pu retranscrire tous les dialogues, tous les du procès et donc c'était une fiction mais qui était très très proche de la réalité puisque il a repris les tout ce qui était retranscrit.
Avant de conclure ce climax, j'aurais voulu évoquer avec vous aussi le cas des séries documentaires qui sont dispo depuis quelques temps maintenant sur Netflix. Hein. On a eu plusieurs exemples, l'affaire Grégory, Chambre 2806 sur l'affaire DSK, l'affaire Watts, Ted Bundy, Jeffrey Epstein. Est-ce que on peut dire qu'elles intéressent le même public et est-ce qu'à leur manière, ces séries documentaires-là sont scénarisées?
Ah ben clairement, elles sont écrites comme des séries, avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode, avec... D'ailleurs, la première qui avait fait parler d'elle sur Netflix, dont le nom m'échappe, aidez-moi les gars.
Starcase.
Making a Murderer. Non, c'est Making a Murderer.
Ouais. Exactement. Tout le monde à l'époque, donc c'était il y a quoi, 5 ans? Quelque chose comme ça, 5-6 ans, je crois.
Après,
était complètement scotché par la série, parce qu'elle était vraiment écrite... La série documentaire, pardon, parce qu'elle était vraiment écrite comme une série. Enfin, je veux dire, avec. Et c'est là où Steph a raison, c'est-à-dire que là, ça mettait. Ça réunissait tout ce qui fait qu'on aime regarder des séries, hein, avec des moments de tension, des moments de suspense, des moments d'émotion, des cliffhangers à la fin de chaque épisode. C'est totalement scénarisé.
Ouais,
ouais. Dans l'écriture, en tout cas.
Mais d'ailleurs.
Regarde, même avant, Staircase, c'est exactement ça, avec des rebondissements en fin d'épisode, avec des saisons, parce que, bah, ça, c'est malgré le réalisateur, puisque il y a eu des rebondissements dans l'affaire après qu'il a filmé. Mais, clairement, c'est monté exactement comme une série.
Ce Staircase qui revenait sur le procès du romancier Michael Peterson, qui était suspecté d'avoir assassiné sa femme.
Ouais, mais d'ailleurs Netflix avait clairement dit qu'il s'était inspiré de The Staircase de Lestrade, qui est sorti il y a très longtemps pour le coup. Il a été vraiment pionnier et où il faisait ses séries documentaires comme ça avec effectivement des cliffhangers, de la musique, du suspense. Et en fait, Netflix s'est inspiré de ça pour faire ses séries doc, ses docu-séries comme ils disent. Assez scénarisé. Après, ils essaient quand même d'être factuels et de pas se tromper sur les faits.
Parce que de toute manière, c'est du documentaire.
Parce que ça reste ça reste du documentaire. Donc c'est là où il y a une différence avec la fiction.
Mais oui, mais c'est là où c'est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est documentaire. C'est pas de la docu-fiction. C'est pas des docu-fictions. Hein. Ce sont des séries documentaires. C'est pas pareil, le docu-fiction.
Ils appellent ça ils appellent ça des docu-fictions, mais.
Oui, mais parfois, tu sais, il y en a eu parfois en France aussi des docu-fictions où ils mêlent sûrement des trucs historiques d'ailleurs, enfin, des programmes historiques où ils mêlent, voilà, un peu de documentaire, un peu d'acting. Bon, c'est un peu particulier. Là, c'est vraiment du documentaire, mais découpé comme une série avec des épisodes. Et écrit comme une série sur la forme. Mais autrement, c'est que des faits réels, c'est que des intervenants réels. Enfin, je veux dire, pour le coup, c'est très très clair que c'est pas de la fiction, mais ça se dévore comme une série.
Regarde, pour Staircase, en fait, la famille de la victime, de la famille de l'épouse, a beaucoup reproché à Delestrade d'avoir filmé de telle sorte que c'était favorable à l'accusé. Et tout au long du procès, ils ont reproché au réalisateur, en fait, d'avoir influencé, en fait, jusqu'au jury, quoi.
Bah oui, mais ça, c'est documentaire, t'as aussi un parti pris, hein. Oui, mais sur un documentaire, donc
c'est surtout, il y a toujours un parti pris.
C'est surtout qu'en plus, c'est un reproche qui est pas du tout justifié, puisqu'ils ont, demandé à toutes les parties en présence de participer au documentaire, c'est eux qui ont pas voulu. Donc, après, si tu veux pas faire entendre ta voix, tu peux pas te plaindre qu'on n'entend pas ton point de vue dans le documentaire.
Pour rappel, je crois que Staircase, le titre français, c'était Soupçon.
Ouais, Soupçon.
Tout à fait.
Génial, hein, vraiment à regarder hein, pour ceux qui n'ont pas vu.
C'est extraordinaire.
Ce qui me fait dire qu'une bonne série documentaire est bien meilleure qu'une mauvaise fiction.
Bah, là, typiquement, le fait divers, à la base, il est un peu quelconque, en fait, presque. Il est presque... La personnalité de l'accusé fait que ça en fait quelque chose d'extraordinaire. Mais sinon, c'est quand même juste une femme qui est retrouvée morte au pied de son escalier.
Bah, bah, juste, voilà. Je veux dire, bon, ça va.
Ça va, quoi.
Il y a les rebondissements quand même. Hein. Il y a, quand ils trouvent l'arme du crime, tout ça.
Mais c'est aussi par la personnalité de l'accusé qui fait qu'on s'y prend. Et je pense que c'est aussi son traitement à Jean-Xavier Destrade qui fait que l'histoire est encore plus... forte, en fait. C'est lui qui l'a fait aussi plus forte, peut-être, par son traitement qui est extraordinaire. Mais je pense qu'il a aidé à faire du fait divers peut-être plus important que ce qu'il aurait été si ça avait été traité autrement, en fait.
En tout cas, je pense que, du coup, avec ces séries doc comme ça, le public, il s'élargit vraiment. Ça devient plus populaire, en fait. C'est-à-dire que je pense que l'affaire Grégory sur Netflix, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent pas forcément aux faits divers, qui ont regardé par curiosité, DSK aussi. Et c'est pas forcément des gens qui vont s'intéresser à ça en général. Donc, à mon avis, ça touche un public beaucoup plus large qu'avant.
En même temps, il y a rien de plus populaire au sens premier du terme que le fait divers. C'est vraiment un genre... très populaire, pour le coup. Tout le monde regarde la rubrique des faits divers dans les journaux, y compris régionaux, y compris nationaux.
Et pour revenir à ta question de tout à l'heure, je pense qu'en fait, c'est un public différent selon que c'est un documentaire ou une fiction. Je pense qu'il y en a qui vont regarder les deux parce qu'ils vont être fous furieux des faits divers comme Stéphanie. Et sinon, d'autres qui veulent plutôt, qui pensent justement que la fiction va édulcorer des choses ou transformer des choses. Et que pour avoir la véracité, même si ça reste un point de vue, le documentaire sera plus fort aussi. Que je pense que il y a une part du public qui est le même et des publics différents aussi.
Voilà, sur ces réponses de Normand,
voilà,
je pense qu'on peut conclure
que je revendique être.
Bon,
furieux, t'es normande. Eh ben, évidemment, ben voilà.
Fou furieux ou pas de faits divers, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est donc la fin de Climax. Merci beaucoup à mes expertes Anne, Stéphanie et Katia. Vous pouvez nous retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à commenter aussi ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Télé Loisirs, mais aussi sur les plateformes. Salut.
Ciao Seb, à bientôt.
Salut.
À bientôt.